Attention. Allemagne, 1774-1924, à la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, qui a bénéficié de miracles eucharistiques fréquents à titre personnel. En Allemagne, à Augsbourg, en 1194, une hostie volée se transforme en chair saignante. En Allemagne, à Meiningen, en 1216, une hostie saigne. En Allemagne, à Bettprün, en 1125, parcelle d'hostie miraculeusement retrouvée. À Erding, en 1417, en Allemagne, une hostie consacrée volée échappe des mains du voleur. En 1284, à Cranenbourg, miracle du crucifix miraculeux. Il y a un A qui manque. C'est-à-dire que c'est à Ratisbonne en 1255 en Allemagne, doute du prêtre, le Jésus du crucifix détache ses bras du crucifix et prend le calice parce que le prêtre n'osait pas faire l'élévation, pris par un doute. Alors, le crucifix de l'autel, en bois, est devenu vivant et a pris le calice et l'a élevé. Imaginez la tête des fidèles. Et c'est à Ratisbonne, hein, dans la ville de Ratisbonne. Et il est toujours là, le crucifix. À Regensburg, un prêtre doute de la présence réelle et... Il y a un miracle eucharistique, mais ce n'est pas précisé ici. 1330, alors, pour ceux qui connaissent l'allemand, ne vous moquez pas, hein, je continue. Hein. À Voldurn, le vin se transforme en sang, tache le corporal, une image du Christ crucifié se forme. À Weingarten, le saint sang du Christ, qui, lui, je crois, dans cette ville, vient de Terre Sainte. Ce sont les gouttes du précieux sang qui ont été gardées par la communauté de Jérusalem et qui se trouvent en Allemagne, les gouttes du précieux sang de la communauté de Jérusalem.
C'est pas
eucharistique. Mais non, c'est le sang coagulé du Christ. Bon. Vilnac, en 1383, trois hosties restées intactes qui saignent après l'incendie. En Autriche, en 1310, à Fitch, le sang boue dans le calice. Voyez. À Konenstrauss, en 1010, Thérèse Newman, elle jeûne pour faire comprendre la valeur de l'Eucharistie. Hein, 1898-1962. En 1384, en Autriche, l'hostie saigne. En Belgique, en 1871, Dieu permet à Anne-Louise Latteau de vivre sans manger grâce à l'Eucharistie. En Belgique, à Boisseigneur, Isaac, en 1405, une hostie consacrée saigne. À Bruges, en Belgique, en 1216, saint sang du Christ. Je crois que ça vient aussi de la communauté de Terre Sainte. En Belgique, à Bruxelles, en 1370, du sang coule d'hosties profanées. En Belgique, à Herenthal, en 1412, des hosties volées retrouvées intactes dans une tanière de lapin. Il avait caché dans un trou de la terre lumière en forme de croix qui signale où se trouvaient les hosties. En Belgique, à Erkenrode Hasselt, en 1317, conservation miraculeuse d'une hostie d'où a jailli le sang. À Liège, en Belgique, en 1374, instauration de la fête du Corpus Domini et la bulle Transitus de hoc mundo de... Alors là, j'ai une faute. Hein. Colombie, à Tumaco, 1916, du sang jaillit des hosties profanées. Elle s'envole avec un éclair lumineux, mais là, j'ai une erreur de copier-coller. Et on reviendra sur cette bulle que nous allons voir. Là, en Belgique, à Louvain, en 1374, hostie consacrée se transforme en chair sanglante. Voilà. En Colombie... À Tournaco, en 1906, une hostie épargne une petite île d'un raz-de-marée. C'est-à-dire le prêtre sort avec l'ostensoir et l'eau se divise. Et comment dire, le raz-de-marée s'arrête. En Croatie, à Lutbreg. En 1411, un prêtre doute, le vin se transforme en sang dans le calice. Au Danemark, à Copenhague, 1638-1686, la bienheureuse Niels Stensen passe du protestantisme au catholicisme, le bienheureux, pardon, excusez-moi, parce qu'il devient prêtre devant la magnificence de l'hostie. En Égypte, à Sète, au 5e siècle, l'enfant Jésus apparaît à la place du pain. En Égypte, au 6e siècle, Sainte Marie Estitiaca, qui devait vivre de l'Eucharistie. En Espagne, des poissons recueillent les hosties tombées dans l'eau, en 1348, pour les rapporter à la terre ferme. À Alcala, en 1597, hosties volées parfaitement intactes après 11 ans. Il faut savoir que les hosties étaient plus épaisses que de nos jours. Elles étaient sans levain, mais elles étaient bien plus épaisses. Et donc se conservaient moins bien, parce qu'elles étaient plus chargées en humidité. Donc on devait les consommer vite, sinon elles moisissaient.
Et la couleur.
Ah ben elles étaient de couleur du froment. Si le froment était pur, elles étaient blanches, bleues, enfin avait été. S'il y avait un peu plus de son. Ensuite, à Alcoy, en Espagne, en 1566-68, découverte miraculeuse d'hosties volées. À Calanda, en 1640, une jambe amputée récupérée après l'onction d'huile de la lampe du Saint-Sacrement. À Caravana de la Cruz, en 1231, Jésus apparaît avec un crucifix sur un crucifié dans une hostie. L'Espagne, à Trimbala, en 1370, une hostie se transforme en chair d'où coule un sang abondant devant un prêtre qui coule. Un prêtre qui doute. L'Espagne d'Aroca en 1239, des hosties se couvrent de sang après une attaque ennemie. À Gerona en Espagne en 1297, des hosties transformées en chair dans la bouche du prêtre qui doute de la présence réelle. En 1572, en Espagne, à Gorcum, El Escorial, une hostie piétinée par un mercenaire et transpercée par sa botte à clous saigne. À Guadalupe, en Espagne, en 1420, plusieurs gouttes de sang tombent d'une hostie lors d'une messe devant un prêtre. En 1010, à Ivora, en Espagne, d'hérésie contre la présence réelle, le curé doute et le vin se transforme en sang dans le calice. À Montcada, en 1392, l'enfant Jésus apparaît dans une hostie pour dissiper les doutes d'un prêtre. À Montserrat, en 1657, pendant une messe, manifestation pendant une messe de la libération d'âmes du purgatoire. À Ocebreiro, en Espagne, en 1300, pour soutenir la foi chancelante d'un prêtre, l'hostie se transforme en chair et le vin en sang pendant une messe. En 1824, une hostie volée retrouvée intacte dans un champ 11 ans après. À O'Neill, en Espagne. En 1533, à Pomferrada, en Espagne, des hosties volées retrouvées intactes. À San Juan de las Abras de As, en 1251, une hostie retrouvée intacte en Espagne. En 1907, des hosties volées retrouvées à Silla, en Espagne. À Valence, en Espagne, il y a le calice de la Sainte Seine. Et Benoît XVI, de son autorité apostolique, a dit qu'il est très vraisemblable que ce soit le calice de la Sainte Seine. Ce qu'on appelle le Graal, dans la légende arthurienne. Ce calice est formé d'une pâte de verre rouge, ou plutôt d'une agate. C'est de la pierre semi-précieuse creusée. Voyez, avec le pied et la coupe. Qui ont été, recollées au Moyen-Âge avec une anse en or. Hein, qui enserre le pied et la coupe, mais... par des tiges d'or. Donc on voit le calice qui est donc en pierre semi-précieuse rouge. Parce que les Juifs, lorsqu'ils célébraient la Pâque, ils ne prenaient pas un verre en terre cuite. C'était une fois par an. Donc c'était le verre le plus beau de la maison et de la famille. C'est évident. La coupe de bénédiction. À Saragosse, en 1427, en Espagne, l'hostie volée pour filtre d'amour, l'enfant Jésus apparaît dedans et ne brûle pas dans le coffret. Ça fait penser au miracle de Santarém au Portugal. À Avignon, en France, en 1433, l'eau débordant épargne l'autel avec l'ostensoir dans une crue. En France, à Blano, en 1331, lors d'une messe, un fragment d'hostie consacrée qui tombe sur la nappe d'autel se transforme en sang. À Bordeaux, en 1822, Jésus bénissant apparaît pendant 20 minutes dans une hostie exposée. Donc tous les fidèles qui étaient là ont vu le Christ apparaître dans l'hostie, à la place de l'hostie, en train de bénir. À Châteauneuf, de 1902 à 1981, Marthe Robin vivra pendant 53 ans de l'Eucharistie. À Dijon, en 1430, une hostie grattée dans un ostensoir, c'est-à-dire que l'hostie qu'on met dans l'ostensoir, le prêtre a été maladroit et l'hostie a été blessée, si vous voulez, enfin abîmée par une partie métallique du soutien de la lunule, c'est-à-dire de la partie ronde dans laquelle on met l'hostie. Suinte le sang avant que le Seigneur apparaisse sur son trône. Et à Douai, en 1254, en France, pendant qu'un prêtre distribue la communion, une hostie consacrée qui tombe se soulève d'elle-même et se pose dans l'ostensoir. 1608, à Faverney. À la veille de la fête de la Pentecôte, les moines de Faverney firent exposer le Saint-Sacrement pour l'adoration des fidèles. Pendant la nuit, un incendie éclata dans l'église et détruisit l'autel et les objets du culte. L'ostensoir qui contenait la grande hostie fut retrouvé quelques jours après, suspendu en l'air, parfaitement intact. La particule miraculeuse est encore conservée et de nombreux pèlerins viennent chaque année vénérer le miracle. Au XVIIe siècle, le protestantisme et le calvinisme se diffusèrent rapidement en France à cause des avantages matériels accordés par les nouvelles religions aux membres de la noblesse et du clergé provenant de l'Église catholique. Donc pour les faire apostasier. L'incertitude entamait la foi de beaucoup de personnes, même dans les monastères. Il y avait à Faverney une abbaye bénédictine dont les moines s'étaient éloignés de la règle de leur fondateur. Ils pratiquaient seulement le culte envers la Vierge de Notre-Dame la Blanche, connue dans toute la contrée pour être miraculeuse. Par son intercession, plusieurs miracles se produisirent, entre autres celui du retour à la vie de deux enfants pas encore baptisés. En 1608, à la veille de Pentecôte, les moines firent préparer un autel provisoire pour l'exposition et l'adoration du Saint-Sacrement. La lunette de l'ostensoir était très large, les moines y mirent deux hosties, et après les vêpres, le laissèrent sur l'autel. Le matin suivant, le sacristain, en ouvrant l'église, la trouva pleine de fumée, et l'autel provisoire réduit en cendres. Il se mit à hurler, et tout de suite les moines et d'autres personnes accoururent et commencèrent à remuer la cendre, dans l'espoir de retrouver une partie de l'encensoir. Quand la fumée se dissipa, ils furent stupéfaits de voir que l'encensoir était suspendu en l'air. La foule augmenta et se pressa pour voir le prodige eucharistique où les hosties étaient restées intactes malgré l'incendie. Les moines stupéfiés demandèrent conseil aux frères capucins de Vesoul. Ceux-ci préparèrent un nouvel autel et célébrèrent la Sainte Messe. À l'élévation de l'hostie, lentement, l'encensoir descendit sur le nouvel autel. Imaginez le nombre de les centaines de personnes qui ont assisté à cette messe. Eux, c'est sûr qu'ensuite, avant de se dire est-ce que Jésus est présent, Le 10 juillet, l'archevêque de Besançon déclara que le miracle eucharistique était authentique et le 13 septembre, l'archevêque de Rodi, nonce à Bruxelles, le fit connaître au pape Paul V, qui concéda une bulle d'indulgence. Le miracle ranima la foi de beaucoup de monde. En 1862, la congrégation des rites autorisa la célébration du miracle en procession. En 1908, on commémora solennellement le troisième centenaire du miracle par un congrès eucharistique national. Aujourd'hui encore, on peut voir et vénérer la relique d'une des deux hosties restées intactes. L'autre hostie, malheureusement, après avoir été donnée à l'église de Dole, fut détruite par les révolutionnaires en 1794. Et là, Jésus ne s'est pas protégé. Mais les miracles eucharistiques sont une miséricorde. Hein. Donc quand Jésus se laisse profaner, c'est qu'il ne donne pas l'occasion à la personne au moins de s'arrêter dans sa profanation et d'être converti. Donc c'est, il vaut mieux pour lui en fait qu'il y ait un miracle. À La Rochelle, Neuvy Saint-Sépulcre.
Monsieur le curé, c'est pas cohérent, il va y avoir un...
Oui, il y a un problème. Ouais. Il y a du copier-coller qui va pas. Donc à La Rochelle, c'est en 1461. À Neuvy Saint-Sépulcre, ça doit être en 1257. C'est une guérison pour l'un et deux gouttes de sang recueillies sur le calvaire. Sur le calvaire. Aux Ulmes, en 1668, à la place de l'hostie, apparaît un homme. Le Seigneur apparaît dans l'hostie pendant l'exposition du Saint-Sacrement en 1668. À Lourdes, en 1888, guérison miraculeuse pendant la procession du Saint-Sacrement. Une des guérisons de Lourdes, reconnue par l'Église, c'est exactement pendant la procession du Saint-Sacrement. À Marseille, en Beauvaisis, en 1533, préservation miraculeuse d'hosties volées et cachées sous la neige. À Morne-Rouge, en Martinique, en 1902, ville épargnée pendant l'éruption de la montagne Pelée, apparition de Jésus dans l'hostie. À Paray-les-Monial, au XVIIe siècle, Sainte Marguerite Marie à la Coque voit le Sacré-Cœur. À Paris, 1224-1274, Saint Thomas d'Aquin, dans sa immense dévotion à la Sainte Eucharistie. Mais ce qui est miraculeux, c'est l'inspiration de Saint Thomas d'Aquin, qu'il mettait sa tête dans le tabernacle pour être inspiré. Quand il avait des difficultés à exprimer la foi, il allait dans l'église, il ouvrait le tabernacle et il mettait sa tête dans le tabernacle. Les saints sont admirables, mais pas imitables. Attention, le premier qui fait ça, il a intérêt d'être un grand saint pour supporter la colère du curé.
Monsieur le curé ?
Oui.
À Paris, il y a eu aussi un miracle eucharistique au Moyen-Âge.
Oui, mais peut-être qu'il y est. Hein. On va voir jusqu'à la fin. À Paray-le-Monial, parce que c'est par ordre alphabétique. Hein. 17e siècle, voilà. À Sainte-Catherine-Labouré, en 1830, contemple Jésus dans l'hostie consacrée au moment de la communion pendant l'exposition du Saint-Sacrement. Ça, on oublie hein, qu'il y a eu un miracle eucharistique pour Sainte-Catherine-Labouré. Bon, c'est dans sa vie. 1290. Ah, il n'y a pas la ville. Hostie volée, jetée dans de l'eau bouillante qui s'envole jusque chez une femme pieuse.
C'est ça, je pense que c'est Paris.
C'est aux billettes. André Frossard, là, ils mettent. Là, c'est pas reconnu par l'Église. Hein, c'est 1969, conversion devant le Saint-Sacrement de l'écrivain athée André Frossard. Après ça, qu'en 1643, calice le fond dans un incendie et l'hostie est intacte. Sainte-Germaine. Cousin Pibrac, par sa fidélité au Saint-Sacrement, voit après une bénédiction des flots tumultueux qui l'empêchaient de se rendre à l'église, se séparer en deux. À Saint-André de la Réunion, en 1902, visage de Jésus apparaît dans l'hostie. Bernard de Clairvaux et Saint-Jean Bosco, qui bénéficient de miracles eucharistiques à titre personnel, ou grands dévots de l'Eucharistie. Absolution demandée par Charles Martel à Saint-Gilles. Pourquoi c'est un miracle eucharistique? Je ne sais pas. En Hollande, à Alkmaar, en 1429, au cours d'une messe, un prêtre renverse par mégarde sur l'autel et la chasuble du vin qui se transforme en sang au cours de la messe. À Amsterdam, en 1345, préservation d'une hostie consacrée des flammes suspendues en l'air. À Bergen, en 1421, des particules d'hostie jetées par un prêtre dans l'eau d'un canal sont retrouvées après quelques mois, flottant sur l'eau, imprégnées de sang. Vous voyez, ce miracle de 1421, eh bien, c'est le même miracle, le sacrilège en moins, de 2013. À Boxmeer, Meyer, en 1400, ça doit égratigner l'oreille de Robert, en Hollande. Au cours d'une messe d'un prêtre qui doute, le vin tombé sur le corporal se transforme en sang qui coagule. À Boxtel, Oostraten, en 1380, ça doit être affreux. Ne perdez pas la foi, c'est pas...
Je ne fais que l'épreuve de la rencontre.
Pendant une messe, le vin blanc tombé sur le corporal se transforme en sang. À Breda Nirvart, en 1300, une hostie volée retrouvée intacte sous une motte de terre. À Miersen, en Hollande toujours, pendant la messe, du sang jaillit de la grande hostie. En 1222. Pourquoi 1465, je ne sais pas. 1342, lors d'un incendie, des hosties sont préservées. En 2001, en Inde, le visage du Christ couronné d'épines apparaît dans l'hostie. Est-ce que... Je ne sais pas si c'est reconnu, je pense, hein, s'il le met ici, enfin bon. Il y a un caractère officiel. La conversion d'André Fossard, si vous voulez, ce n'est pas reconnu par l'Église, mais il a témoigné des articles publics qu'il s'est converti à une adoration eucharistique. À Alatri, en 1228, en Italie, un fragment d'hostie transformé en chair. À nouveau, c'est une sorcière qui demande une hostie. Alors, les protestants ont tué plusieurs dizaines de milliers de sorcières, ou présumaient elles. L'Église, elle, quelques milliers, je crois. Je crois qu'un grand inquisiteur espagnol a fait condamner 400 personnes sur plus de 20 ans. Mais il faut savoir que les sorciers ou sorcières, on venait les voir aussi pour les avortements et pour les poisons. Donc c'était des prisonniers de droit commun également, hein, pour l'État. Hein, le bras séculier tuait ces personnes-là parce qu'ils faisaient une pharmacie un peu toxique. Voyez. Mais en ce qui concerne les philtres d'amour, ils demandaient des hosties consacrées. Voyez. Ce qui était une horreur pour l'époque, c'est sûr. Et de nos jours aussi, mais imaginez des personnes qui vont à la messe pour prendre des hosties, pour les donner à des marabouts, à des...
D'ailleurs, à la fin du XVIIe siècle, oui. Le quartier près de l'église de la Bonne Nouvelle, était donc tout près d'ici, oui. Était connu pour abriter pas mal d'empoisonneuses, n'est-ce pas, ou de prêtres apostats, n'est-ce pas, prêts à célébrer des messes noires. Et donc, tout ce quartier était très mêlé dans l'affaire des poisons.
Eh oui. Sainte-Claire d'Assise, en 1240, sauve son couvent des Sarrasins en leur montrant la Sainte Hostie. Elle prie, d'abord, elle dit « Seigneur, est-ce que vous pouvez nous protéger ?» Et l'hostie lui répond, notre Seigneur dans l'hostie lui répond, oui, je vous protégerai. Donc il sort avec le Saint-Sacrement. C'est pour ça que les Clarisses ont le privilège d'ouvrir le tabernacle. Pour, lorsqu'il y a un ostensoir, alors que c'est normalement, traditionnellement, un prêtre qui présente l'hostie, les Clarisses, elles, sans prêtre, peuvent ouvrir le tabernacle quand il y a un ostensoir qui est déjà prêt. Donc pour les adorations eucharistiques, les Clarisses peuvent ouvrir et fermer le tabernacle. Privilège à cause de Sainte-Claire d'Assise qui a eu, l'originalité de prendre l'hostie dans le tabernacle avec l'ostensoir. À Saint-François d'Assise, la brebis de Saint-François d'Assise plie les genoux en entrant dans l'église et se courbe les genoux pliés au moment d'élévation, une pieuse brebis. À Asti, en 1535, un prêtre au moment de la fraction de la Sainte Hostie, la voit devenir, sur toute sa longueur, rouge de sang frais. À Asti, en 1718, une hostie rompue se couvre de sang, ainsi que le calice et la coupe. À Bagno di Romagna, en 1412, en Italie, le vin transformé en sang bouillonne dans le calice à la suite du doute du prêtre. À Bolsena, en 1264, et maintenant c'est Luca qui souffre, en Italie, doute du prêtre, transformation en chair, Urbain IV, étant à toute l'église la fête Dieu. Saint Thomas d'Aquin a été présent, le miracle de Bolsena, 1264. Canossio, en 1630, un village est sauvé de la crue d'un torrent en bénissant celui-ci par le Saint, avec le Saint-Sacrement. À Cassia, en 1330, une hostie traitée avec négligence par un prêtre se transforme en caillot de sang. À Cava dei Tirreni, en 1656, une ville sauvée de la peste grâce à la procession du Saint-Sacrement. À Dronero, en 1631, la bénédiction du Saint-Sacrement arrête un incendie. À Ferrare, en 1171, au moment où un prêtre rompt l'hostie, un flot de sang jaillit, tachant la voûte au-dessus de l'autel. C'est très connu, ça, à Ferrare. Parce qu'on voit encore la tache de sang à la voûte. 1230-1595, pourquoi 1595? À Florence, quelques gouttes de vin consacré se transforment en sang coagulé. En 1294, à Gruora Valvasone, une lavandière lavant une nappe d'autel voit celle-ci se couvrir de sang à cause d'une particule d'hostie qui y était restée. En 750, après Jésus-Christ, à Lanciano, ce terme se transforma en Lanzanum, mot qui évoque celui de Lancia, la lance. Cette arme figurait dans les armes angevines de la cité. Par allusion à sa participation aux croisades et peut-être aussi parce que, selon la tradition, le soldat longin était originaire de ce pays. C'était un Italien, Longin, c'était un Romain. Petite cité des Abruzzes est située à 4 km environ de l'autoroute Pescara-Bari qui longe l'Adriatique, un peu au sud de Chieti. Dans une petite église dédiée à Saint Legonziano, que l'on a voulu identifier à Saint Longin, le soldat qui transperça le côté et le cœur du Christ mort en croix. Donc quand il y a un, comme c'est un écrit moderne, donc c'est sûrement Saint Longin. Un moine basilien qui célébrait la messe en rite latin, puisqu'il a utilisé une hostie ronde, alors que les Grecs utilisent une hostie carrée de pain fermenté qu'il plonge dans le précieux sang. En Orient, avec une petite cuillère dorée, on prend un dé d'hostie plongé dans le précieux sang et on vous la pose sur la langue. Il est absolument impossible de communier dans la main en Orient. Après la consécration, on se mit à douter de la présence réelle du Christ dans les saintes espèces. C'est alors que, sous les yeux de ce prêtre, l'hostie se changea en un morceau de chair et le vin consacré en du sang réel qui se coagula en 5 caillots irréguliers de forme et de grosseur différentes. Le miracle fut consigné sur un très ancien parchemin, mais celui-ci, dans la première partie du XVe siècle, fut volé aux franciscains par 2 moines basiliens qui ont récupéré le parchemin. On ne possède aujourd'hui sur le miracle que des textes remontant au XVIe et XVIIe siècle, c'est-à-dire au moins 800 ans après l'événement. Mais une tradition constante garde le souvenir du prodige et surtout les reliques en furent conservées. Les moines basiliens qui desservaient l'église de San Legonziano quittèrent Lanciano au XIIe siècle, le couvent passa ensuite aux bénédictins, puis en 1253 aux franciscains conventuels qui, en 1258, reconstruisirent l'église et la dédièrent à Saint François. Ces religieux durent à leur tour quitter les lieux en 1809 lorsque Napoléon Ier supprima les ordres religieux. Ils ne réoccupèrent leur antique couvent qu'en juin 1953. Quant aux reliques enfermées dans un reliquaire d'ivoire, elles furent conservées d'abord en l'église Saint-Legoncien, puis en celle de Saint François. Au moment des incursions turques dans les Abruzzes, un frère mineur du nom de Jean-Antoine de Mastro-Renzo voulut les sauver, et le 1er août 1566 partit en les emportant. Mais après avoir marché toute la nuit, il se retrouva le lendemain matin aux portes même de Lanciano. Jésus voulait pas partir d'ici. Il comprit alors que lui et ses compagnons devaient y demeurer que pour garder les reliques. Celles-ci, une fois passé le danger, furent placées sur un autel digne d'elles, à droite de l'unique nef de l'église conventuelle. Elles étaient encloses en un vase de cristal, déposé lui-même dans une armoire de bois, fermée par 4 clés. En 1920, elles furent placées en arrière du nouvel autel majeur. Depuis 1923, la chair est exposée dans le soleil d'un ostensoir, tandis que les caillots de sang desséchés sont contenus dans une sorte de calice de cristal dans le pied de cet ostensoir. Avant celle de 1970, plusieurs reconnaissances de ces reliques avaient eu lieu en 1574, 1631, 1770 et 1886. Lors de celle de 1574, l'archevêque Rodriguez constata que le poids total des cinq caillots équivalait au poids de chacun d'eux. Ce fait extraordinaire ne fut pas vérifié ultérieurement. Le poids actuel de l'ensemble des caillots est de 16 grammes 505 et celui de chacun d'eux est de 8 grammes 2,45, 2,85, 2,05 et 1,15. Il faut y ajouter 5 mg de poussière de sang. Divers documents attestent à partir du XVIe siècle la vénération rendue aux reliques et l'habitude que l'on avait de les porter en procession lors des nécessités graves et urgentes. En novembre 1970, sur les instances de l'archevêque de Lanciano, Mgr Père Antoni, et du ministre provincial des conventuels des Abruzzes, et avec l'autorisation de Rome, les franciscains de Lanciano décidèrent de faire procéder à un examen scientifique de ces reliques qui dataient de près de 12 siècles. L'entreprise était osée assurément, mais ni la foi catholique, ni une tradition historique certaine n'ont rien à redouter de la science. L'entreprise fut confiée au docteur Odoardo Linoli, chef de l'hôpital à l'hôpital d'Arezzo et professeur d'anatomie, d'histologie, de chimie et de microscopie clinique. Il effectua les prélèvements, les analyses et le 4 mars 1971, le professeur produisit un compte-rendu. La chair miraculeuse est vraiment de la chair, constituée de tissus musculaires striés du myocarde. C'est assez impressionnant. Vous imaginez qu'à l'époque, on allait prendre sur un corps un cœur pour le couper en lamelles. Le sang miraculeux est du sang véritable. L'analyse chromatographique le démontre avec une certitude absolue et indiscutable. L'étude immunologique manifeste que la chair et le sang sont bien de nature humaine et l'épreuve immuno-hématologique permet d'affirmer en toute objectivité et certitude que l'un et l'autre appartiennent au même groupe sanguin AB. Cette identité du groupe sanguin peut indiquer l'appartenance de la chair et du sang à la même personne, la possibilité demeurant néanmoins d'une appartenance à deux individus différents de même groupe sanguin. Ils n'ont pas fait une analyse ADN. Les protéines contenues dans le sang sont normalement réparties dans un pourcentage identique à celui du sang frais normal. Aucune section histologique n'a révélé la trace d'infiltration de sel ou de substances conservatrices utilisées dans l'Antiquité aux fins de momification. Certes, la conservation des protéines et des minéraux observés dans la chair et le sang de Lanciano n'est ni impossible ni exceptionnelle. Des analyses répétées ont permis de trouver des protéines dans des momies égyptiennes de 4000 à 5000 ans. Mais il convient de souligner dans le corps d'un corps momifié, grâce aux procédés connus, est bien différent de celui d'un fragment de myocarde laissé à l'état naturel pendant des siècles, exposé à l'action d'agents physiques, atmosphériques et biochimiques. C'est-à-dire que l'hostie est en parfaite conservation. C'est le miracle de Lanciano. Alors, pour vous faire une petite... Non, je ne l'ai pas ici, en fait. C'est pas bien. Non, vous voyez, c'est pas sorti. Quoique, vous avez le miracle ici de Favernet, mais j'ai pas trouvé Lanciano. Je vous le donnerai à la fin.